Donc, on va commencer notre étude. Donc, on continue sur la fête de la Pentecôte qu'on avait commencé la semaine passée. Puis, peut-être avant de commencer, on va avoir un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois qu'on puisse être réunis encore ce soir sur cette plateforme Zoom. On te remercie qu'on peut regarder ensemble ta parole. Seigneur, on te demande de diriger cette étude ce soir afin qu'on puisse en tirer profit pour la gloire de ton nom, afin de connaître les choses que tu as bien voulu nous révéler, Seigneur, puis les choses qui étaient dans ton cœur, ton plan merveilleux, tu nous l'as révélé, puis on te remercie pour ça, Seigneur. Donc, on te demande ta bénédiction ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on va commencer avec le Lévitique au chapitre 23. On va relire les versets 15 à 22 dans Lévitique au chapitre 23, qui est la section qui nous parle de la Pentecôte. Comme on a dit la semaine passée, la Pentecôte était liée à la fête des prémices, mais elle arrivait 50 jours après, ou 7 semaines, plus le lendemain du sabbat, ce qui donne 50 jours, de là qui vient le nom de Pentecôte, qui veut dire 50. Donc, on a cette fête-là. La fête des prémices, c'était la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le grain de blé qui est tombé en terre, qui la première gerbe était Christ selon l'ordre que le Seigneur a donné. C'est Christ premièrement, ensuite nous. Puis là, la Pentecôte, c'est vraiment la naissance de l'Église. Maintenant, c'est la récolte qui va venir après la première gerbe qui devait être agitée devant l'Éternel. Puis on a vu que c'était maintenant deux pains qui étaient agités. Comme on avait dit, probablement que pour eux, c'était un mystère. Pourquoi deux pains? Mais maintenant, nous qui sommes arrivés à la période de l'Église, on s'aperçoit que c'est les païens et les juifs ensemble pour former un seul corps. Donc, on a ces deux pains qui représentent les juifs et les païens. Puis, comme le mystère a été révélé à Paul, on va regarder ça plus en détail ce soir. Donc, au verset 15 de Lévitique 23. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner et tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, on va aller dans Actes au chapitre 2. On va aller maintenant dans Actes au chapitre 2. On va voir l'accomplissement. Comme on a dit, ces fêtes-là, les quatre premières, ont un accomplissement pour Israël dans ce temps-là. Mais aussi, les quatre premières fêtes ont une application pour l'Église. Donc, une double application. Puis là, on voit maintenant ce qui est arrivé. Comme on avait dit, le Seigneur a été immolé. Il est mort. Quand ils offraient la Pâque, il est ressuscité à la fête des prémices. Puis maintenant, à la fête de la Pentecôte, maintenant, c'est la naissance de l'Église qu'on voit dans le chapitre 2 des Actes, à partir du verset 1 jusqu'à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Pardon. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, on avait vu aussi dans le chapitre 1 des Actes, quand le Seigneur, avant de partir, parce qu'il a passé 40 jours avec eux après sa résurrection, puis ensuite, il leur avait dit dans Acte 1 au verset 7 à 8, il leur avait dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Là, il parlait du fait qu'il lui avait demandé, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il rétablirait le royaume d'Israël? Mais là, le Seigneur parle des temps et des moments par rapport au royaume. Ces choses-là vont arriver par la suite. Mais il dit, mais au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est ça maintenant qu'on est dans cette période-là. Puis, c'est ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte, 10 jours après que le Seigneur Jésus était remonté au ciel. Eh bien, ce qu'on voit, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la naissance de l'Église. Ce qu'on a vu dans le chapitre 2 qu'on a lu. Les versets 1 à 13, l'événement que le Seigneur avait prédit, qui viendrait dans peu de temps, c'est-à-dire 10 jours, qui est arrivé au jour de la Pentecôte, puis là, il y a le Saint-Esprit est venu pour former cette Église-là par le baptême du Saint-Esprit. Dans le Lévitique, vous n'avez pas besoin de tourner, mais dans le Lévitique, au chapitre 23, le verset 16, il avait dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième jour, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, c'est une offrande nouvelle. C'est que l'Église, c'est un nouveau concept. Il était en vue dans l'Ancien Testament, mais il n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. On voit que Paul nous dit qu'il a été révélé aux prophètes, aux apôtres et aux saints prophètes. Donc, cette idée-là de l'Église était dans la pensée de Dieu, mais n'était pas encore révélée. C'est un nouveau concept. Vous savez, quand on parle d'un peuple, ben, on voit des peuples dans la parole de Dieu. Puis un peuple, ça vient, c'est la postérité d'un homme. Le Seigneur a dit d'Abraham qu'il ferait de lui une nation. Il a fait de lui une nation. Il avait dit à Moïse qu'il détruirait Israël, qu'il ferait une nation de Moïse. Mais Moïse a intercédé, puis le Seigneur ne l'a pas fait. Mais quand on a comme Abraham, ben, de lui vient le peuple d'Israël. D'Ésaü vient les Édomites, de Moab vient les Moabites, de Ben-Ami viennent les Ammonites. Puis ces peuples-là ont été issus d'un homme terrestre. À partir d'un homme, Dieu a fait une nation, il a fait un peuple, mais l'Église est différente. C'est pour ça qu'il dit que c'est une offrande nouvelle, c'est un concept nouveau, l'Église. Maintenant, cette Église-là est issue pas d'un homme, c'est un peuple, mais c'est pas issu d'un homme terrestre. C'est issu de l'homme céleste. Puis c'était fait par l'homme céleste, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort, qui a été enseveli, puis qui est ressuscité, en fait, des prémices. Et maintenant, le Saint-Esprit vient former, à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et vient former un nouveau peuple maintenant. Puis ce peuple-là, ben, les autres peuples étaient terrestres. Mais ce peuple-là, maintenant, lui, il est céleste. Donc, il y a une vocation céleste. C'est un peuple différent. C'est un concept différent. C'est pour ça qu'il dit, vous offrirez une offrande nouvelle. Mais là, on assiste vraiment à la naissance d'un nouveau peuple. C'est pour ça, quand on pense, nous autres, on connaît ce principe-là. On connaît le concept de l'Église parce qu'on est dans la période de l'Église depuis 2000 ans. Mais Pensez à ce moment-là, les gens qui, les apôtres, les disciples à ce moment-là, qui, c'est un concept nouveau pour eux autres. Il fallait qu'ils l'apprennent. Puis même au début, quand c'est arrivé dans le chapitre 2 des Actes, on voit que plus tard, par l'apôtre Paul, le Seigneur a révélé ce mystère-là. C'est un mystère qui était caché en Christ, puis qu'il était révélé. Si on va dans Romains, au chapitre 9, on voit qu'il nous parle. Paul en parle encore de ce peuple-là. Dans Romains au chapitre 9, les versets 24 à 26. Voyez-vous, il dit, Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc, on a les deux pains ici encore, là, les Juifs et les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et Bien-aimés, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, Car le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Puis ça, comme Israël, un reste seulement va être sauvé. Mais maintenant, ce peuple nouveau-là, qui est l'Église, avec une vocation céleste, ben, ça, c'est un nouveau concept. C'est un peuple qui est issu pas d'un homme terrestre, mais de l'homme céleste. C'est pour ça que maintenant, ce peuple-là a une vocation céleste. Puis Paul le disait c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, puis c'était un mystère. Paul nous dit dans Éphésiens 5, 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, cette Église-là, elle a une vocation céleste. Vous savez, c'est quelque chose de penser qu'on va être dans le ciel avec le Seigneur pour l'éternité, mais en plus d'être avec lui, on va être transformé pour être capable d'être avec lui pour l'éternité. Souvent, quand je parlais avec des témoins de Jéhovah, des fois, puis ils me disaient comme argument pour démontrer qu'on avait tort, ils disaient, l'homme a été créé pour être sur la terre, parce que d'autres, ils pensent à une vocation terrestre. Et il dit, l'homme a été créé pour vivre sur la terre, puis maintenant, parce qu'il a péché, il va aller au ciel. Donc, dans leur raisonnement humain, ça ne fait pas de sens. Mais moi, je leur dis, n'est-ce pas que la grâce de Dieu est merveilleuse? C'est vrai, le Seigneur, il nous a donné une vocation céleste. Puis on est un peuple céleste, parce qu'on est issu, non d'un homme terrestre, mais d'un homme céleste. Ça, c'est la grâce de Dieu qui a fait ça. Paul nous dit dans Éphésiens 3, au verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, c'est une offrande nouvelle, c'est un concept nouveau. Puis, il a été né au jour de la Pentecôte, mais il a été révélé, le mystère a été révélé aux saints apôtres, puis aux prophètes de Christ. Puis, comme Paul, qui a eu une connaissance, qui nous en parle dans Éphésiens 2, 3, il nous parle de ce concept-là, qui est un concept nouveau. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, il était mention d'Israël comme la femme de Dieu. Mais c'était un rapport, dans Ézéchiel 23, on voit qu'il nous parle de Oholibama et Ohola, qui est Oholibama, qui est Jérusalem, Ohola, qui est Samarie. C'est comme deux femmes infidèles qui nous parlent ici. Ils nous parlent de leur châtiment. Aussi, dans le prophète Osée, l'Éternel parle aussi. Il demande à Osée de prendre une femme prostituée pour illustrer la relation d'Israël avec son Dieu. Puis, dans Osée 1, 2, il dit, La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, Va, prends une femme prostituée. Et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Donc, Israël, comme épouse de Dieu, eh bien, a été infidèle. Puis, on sait toute son histoire, l'idolâtrie. Ils ont voulu faire comme les nations. Ils se sont ramassés dans la captivité à Babylone. Puis, ils ont été à cause de leur infidélité. Mais, éventuellement, Dieu va parler à son cœur, puis il va la rétablir. Dans Osée, encore, dans le prophète Osée, le prophète Osée devenait comme une leçon d'objet pour Israël, pour démontrer la relation qu'Israël avait avec son Dieu, une relation qui était idolâtre, adultère. Mais quand même, Dieu va parler à son cœur de la rétablir comme les apôtres, comme les disciples ont demandé dans Acte 1. Est-ce qu'en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume à Israël? Le Seigneur, c'est pas à vous de connaître les moments, les temps et les moments. Et ben, maintenant, un jour, il va rétablir. Un jour, il va revenir à Israël. Mais pour l'instant, maintenant, il s'est choisi un autre peuple. Un peuple qui va être céleste, un peuple qui va être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Dans Osée, au chapitre 2, verset 16, voyez-vous, Osée qui donnait, il avait parlé de l'adultère du peuple d'Israël, mais il parle aussi de sa restauration. Dans Osée, au chapitre 2, verset 16, il dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, je parlerai à son cœur. Puis on voit que ça va venir après que l'Église va être enlevée, qu'elle va retourner, elle va s'en aller rejoindre son époux céleste. Eh bien, le Seigneur va recommencer à s'occuper d'Israël dans la grande tribulation qui va être un temps de souffrance pour Israël. Et l'ennemi qui, on voit déjà comme l'antisémitisme qui est à la hausse. Puis on voit que toutes les nations vont aller contre Israël par l'influence de Satan qui veut détruire Israël afin que les prophéties que Dieu a faites ne puissent pas s'accomplir. Mais Dieu va préserver Israël. Et durant la tribulation, comme Osée dit, il va l'attirer, il va la conduire au désert. Il va l'emmener, il va avoir les deux tiers d'Israël qui vont périr, mais il y a un tiers qui est un reste selon l'élection de la grâce. Et maintenant, Dieu va parler à leur cœur au désert, puis on va voir, quand on va voir la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles, ça concerne Israël, quand après que l'Église va être enlevée au ciel, Dieu va revenir pour agir, pour appeler son peuple, pour parler à son cœur, pour qu'il puisse se tourner vers lui, puis comme Paul nous dit dans Romains. Et ainsi, tout Israël sera sauvé à ce moment-là. Donc, ça va être la naissance d'un peuple encore. Ils vont être sauvés tous ensemble par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église, elle épouse bien-aimée du Fils. Puis, c'est lui, il s'est livré afin de la sauver, puis de la purifier. Dans Éphésiens, si on tourne dans Éphésiens au chapitre 5, et versets 25 à 26, on voit que cette épouse-là, c'est le Seigneur. Qui s'est offert lui-même pour pouvoir la sauver et aussi pour la purifier. Quand on lit au chapitre 5 d'Éphésiens, les versets 25 à 26, il nous dit: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, le Seigneur, c'est ça qu'il s'est livré lui-même pour la sauver, puis aussi pour la purifier. Mais un jour, il va se la présenter comme une vierge pure et sans tache. Dans le verset 27 de Éphésiens 5, il dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc le Seigneur va se la présenter. Il y a un jour où il va se la présenter. On voit aussi dans Apocalypse, au chapitre 19, les versets 7 à 9. Réjouissons-nous, Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, on a vu, le Seigneur Jésus-Christ s'est offert comme l'agneau pascal. Il a été enseveli. Il est ressuscité, il a fait des prémices. Maintenant, il a passé 40 jours avec eux. Puis, 10 jours plus tard, 50 jours, il a fait le baptême. Ils ont reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit pour former cette Église-là maintenant. Mais si elle est sans tache ni ride, c'est que lui l'a rendue ainsi. Parce qu'on sait nous étions tous aussi de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Donc on voit que c'est à cause de lui, C'est lui qui l'a racheté. Le grain de blé qui est tombé en terre, qui est mort, qui a porté beaucoup de fruits. Mais ça, c'est le fruit de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Cette église-là, c'est le fruit de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais si elle est sans tache ni rien de semblable, lui l'a rendue ainsi, mais pour ce faire, lui, maintenant, il porte dans son corps les marques des clous dans ses mains, dans son côté percé. Donc, c'est lui qui l'a racheté, mais c'est lui maintenant qui porte. Il a pris nos péchés en son corps sur le bois, il a subi la colère divine. Mais cette église-là, comme on voit dans l'Apocalypse, elle va être glorieuse, elle va être parfaite, elle va être digne de lui. C'est ça, c'est lui qui l'a fait comme ça. On voit que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on voit que l'église est une perle que lui a dû acheter. C'est lui qui l'a racheté. Dans Matthieu 13, au verset 45-46, il dit: Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Je sais qu'il y en a qui disent que la perle, c'est Seigneur Jésus, puis que c'est le pécheur qui, quand il trouve la perle, il va vendre tout pour acheter cette perle-là, mais ça ne marche pas parce qu'on a le trésor d'abord, puis après ça, on a la perle. Puis ensuite de ça, on a dans les paraboles, on a le filet. Donc, ces trois paraboles-là, ce n'est pas une répétition, c'est vraiment une illustration. Premièrement, le trésor, c'est les Juifs, c'est le peuple juif. Puis le Seigneur, il va avoir son trésor. C'est une accumulation. Mais la perle, ça représente l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Une perle, qu'est-ce qu'il y a? Comment une perle est formée? Une perle est formée par un grain de sable qui s'introduit dans un mollusque, dans une huître, et du fait que c'est un corps étranger, c'est un irritant, comme le Seigneur Jésus est venu dans le monde comme un corps étranger, comme un irritant, eh bien, il y a du nacre, l'huître recouvre ce grain de sable-là, de nacre, et c'est ça qui forme la perle. C'est comme ça que l'Église a été formée. Le Seigneur Jésus-Christ est venu comme un irritant dans le monde. Il est venu comme un corps étranger dans le monde. Puis ceux qui se sont associés à lui, ceux qui se sont regroupés autour de lui, eh bien, c'est cette perle-là. Puis c'est lui qui l'a achetée. Donc, c'est une perle. L'Église, c'est une perle que lui a dû acheter. On dit que le Seigneur, il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que nous soyons enrichis. Le Seigneur a tout donné. Il s'est donné lui-même pour nous. Pour racheter cette perle-là. L'Église aussi, on voit que l'Église est démontrée de différentes façons, différents aspects. L'Église aussi est un édifice à construire. Puis c'est ça qui, présentement, on est encore, depuis la Pentecôte, on est encore dans cette moisson-là qui continue et c'est un édifice qui est à construire, comme le Seigneur Jésus avait dit dans Matthieu au chapitre 16, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai. Donc c'est un édifice à construire, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ce roc-là sur lequel il bâtit son église, c'est la déclaration de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc l'église est construite sur ce fondement-là du Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ça a commencé à la Pentecôte, puis l'Église est encore en construction présentement. Mais aussi, l'Église est un secret à révéler. Dans Éphésiens 3, 5, Paul pouvait dire, il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, c'est une perle à acheter, un édifice à construire, un secret à révéler. Donc, le Seigneur utilise ces images-là pour représenter l'Église, pour nous faire comprendre ces aspects-là. C'est lui qui l'a acheté, c'est lui qui l'a construit, mais il nous utilise pour construire cette Église-là. Puis, aussi, c'est un secret et il a utilisé les apôtres et les saints prophètes pour révéler ce secret-là. Puis, Paul, on voit dans. Quand il écrit ces choses-là, on voit qu'il est excité par rapport à cette révélation-là qu'il a eue du Seigneur Jésus-Christ ressuscité lui-même, puis il la transmet. Donc, il parle d'une intendance ou qui lui a été donné pour qu'il le transmette, puis nous l'a transmis, cet enseignement-là. C'est comme on voit quand il est dans Éphésiens 2:3, il parle de juifs et païens, les deux pères, qui sont rassemblés ensemble pour former un seul corps. Il a fait des deux un seul homme nouveau, comme on a vu que l'Église est un concept nouveau aussi. Mais il y a trois choses à remarquer par rapport au baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte ou l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc, on voit que c'est une puissance qui a été transmise aux disciples par le Seigneur Jésus-Christ. Quand on va dans Matthieu, au chapitre 28, le Seigneur avait dit avant qu'il monte au ciel, il leur avait dit au verset 18 de Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Donc, le Seigneur Jésus a reçu ce pouvoir-là. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis là, il transmet à eux, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, le Seigneur Jésus, à cause de son œuvre, a reçu tout pouvoir. Puis maintenant, il donne ce qu'on appelle la grande commission. Il donne ce pouvoir-là, il transmet ce pouvoir-là. Lui étant la tête de cette Église-là, eh bien, il va donner l'énergie au corps et la direction au corps pour qu'il puisse faire cette œuvre-là qui est d'aller vers toutes les nations. Mais comme dans le chapitre 1 des Actes, au verset 8, il avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, c'est une puissance transmise aux disciples dans le temps de l'Église pour construire cette Église-là, pour rassembler cette perle-là et pour révéler ce secret-là. Il a donné le pouvoir que lui avait reçu, il l'a transmis à ses disciples. Deuxièmement, on voit que c'est une puissance transmise, mais deuxièmement, on voit qu'ils sont équipés maintenant pour le témoignage. Vous savez, on a la grande commission, il faut aller faire de toutes les nations des disciples, mais il nous a donné l'équipement, on est équipé maintenant pour pouvoir rendre ce témoignage-là. On est rendu capable. Dans le verset 8 de Acte 1, il dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce pouvoir-là qui a été transmis par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, eh bien, il est encore avec nous parce qu'on est encore dans le temps de cette récolte-là qu'on récolte encore jusqu'à temps que l'Église soit enlevée. Comme vous voyez dans le tableau, là, il y a une ligne qui, c'est pour l'Église. On voit qu'il y a une ligne, c'est Israël, il y a une ligne, c'est pour l'Église. Puis quand l'Église remonte, quand elle est enlevée au ciel, après la Pentecôte, parce qu'il y a un intervalle entre la Pentecôte qui est 7 semaines après la fête des prémices, plus un sabbat, et bien 50 jours. Mais après ça, il y a un temps là, dans l'année jusqu'à ça va être le 7e mois, qui est le début de l'année civile. Et bien, il y a un intervalle. Puis c'est cet intervalle-là, on va en parler après qu'on aura vu la fête de la Pentecôte. Mais c'est dans ce temps-là que l'Église est construite. C'est dans ce temps-là que l'Église est rassemblée. Ensuite, quand elle va s'en aller au ciel avec son Sauveur dans l'enlèvement, après ça, il va y avoir les trois autres fêtes qui concernent les Juifs où Dieu va revenir avec les Juifs. Donc, on est équipé maintenant à partir de Jérusalem. C'est là que l'Évangile a commencé. L'Église a commencé à débuter à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est ça qu'on voit maintenant. Mais aussi, c'est une puissance transmise aux disciples. Ils sont équipés pour le témoignage ou rendus capables pour le témoignage. Mais maintenant, on voit aussi, c'est le baptême du Saint-Esprit pour la naissance de cette Église-là. Comme le Seigneur avait dit dans Acte 1, au verset 5, il leur avait dit d'attendre pour la puissance qui viendrait sur eux. Et puis, il leur dit au verset 5, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur a prophétisé, il leur a dit, qu'il leur a annoncé qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Donc, il pointe vers un événement. Et ce baptême-là, c'est une expérience historique. Donc, c'est une expérience historique et unique dans le temps, parce que le Seigneur pointait à un moment, il dit, dans peu de jours, puis on voit que c'est au jour de la Pentecôte qu'est arrivé le baptême du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur pointait à ce moment-là, qui allait être 10 jours après qu'il serait monté au ciel, soit à la Pentecôte. C'est dans ce moment-là, un moment précis, que viendrait le baptême du Saint-Esprit, mais son effet ou cette expérience-là, on est au bénéfice de cette expérience-là depuis le jour de la Pentecôte pour toute la période de l'Église. Donc, c'est la puissance pour le témoignage qui continue encore aujourd'hui. Puis, le baptême du Saint-Esprit a enlevé toutes les différences. On en parlait, c'était un peuple maintenant, un peuple nouveau, juif et gentil. Donc, il fallait que ce peuple-là soit, qui ait pu enlever les différences pour qu'on soit un seul homme nouveau, comme Paul avait dit dans Éphésiens 2, 3, de chapitre 2, chapitre 3. Mais dans Galates 3, 26, 28, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. On voit que quand le baptême du Saint-Esprit est arrivé, c'était des juifs à ce moment-là, mais quand on arrive plus loin, on voit dans le chapitre 10, quand Corneille, qui était un païen, maintenant, lui est entré aussi, et sa maison sont entrées, les païens entraient dans l'Église au bénéfice du baptême du Saint-Esprit pour former un seul corps. Donc, ça c'était, Dieu a enlevé les différences. Puis, mais ici, ceci est en rapport pas avec c'est en rapport pas avec les rôles. Parce qu'on sait qu'il y a des rôles différents, hommes et femmes ont des rôles différents dans l'Église. Comme le Seigneur Jésus a un rôle différent, il est la tête de l'Église, le Saint-Esprit qui conduit, qui a formé le corps. Mais nous, les hommes, ont un rôle, les femmes ont un rôle distinct. Mais c'est par rapport à l'unité du corps, on est tous un. Puis le Saint-Esprit a enlevé toutes les différences. C'est pour ça que les Juifs ne peuvent pas dire maintenant qu'ils ont une part privilégiée dans l'Église. Ils sont au même niveau que les païens. L'homme et la femme, il n'y a pas esclave ou libre, il n'y a pas de différence. On fait partie du corps du Seigneur Jésus-Christ. On fait partie de cette Église-là à part entière, chacun de nous. Donc, c'est un rapport, c'est pas un rapport avec les différents rôles, mais c'est la position dans l'Église pour l'unité. Comme on voit dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 1 à 7, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, on voit ici que c'est pour l'unité. Dieu a enlevé les différences. Mais on voit que le baptême était pour former un seul corps. C'est important, le baptême du Saint-Esprit. Il y en a des gens qui pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'était pour parler en langue. Ils ont parlé en langue au moment du baptême du Saint-Esprit, mais le but du baptême du Saint-Esprit, c'était pour former un seul corps. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de répéter cette expérience-là. On entre au bénéfice quand on est sauvé. On fait partie, à cause du baptême du Saint-Esprit, on fait partie de ce corps-là, on fait partie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'était pour former un seul corps, comme on voit dans 1 Corinthiens 12 au verset 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour. Puis quand on voit le mot pour ici, c'est le but du baptême du Saint-Esprit. C'était pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voyez-vous? Donc, le baptême du Saint-Esprit était le but, c'était de former un seul corps qui était en accord avec la fête de la Pentecôte, les deux pains qui étaient réunis ensemble pour former un seul. Donc, mais c'est important qu'on soit un pour accomplir la tâche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être sauvés puis vivre indépendamment de l'Église, vivre leur vie chrétienne chez eux, tout seuls, sans se réunir avec des chrétiens. On sait qu'il y a des circonstances parfois où des gens n'ont pas, sont dans un endroit où il n'y a pas d'église locale, il n'y a pas un endroit pour se rencontrer. Mais vraiment, si le but de Dieu dans nous sauver, le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous sauver pour qu'on puisse, on fait partie du corps de Christ, l'Église universelle, mais on doit aussi faire partie d'une église locale. On doit être avec une église locale pour faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus avait dit, il dit que après qu'il serait mort, qu'il serait enseveli, ressuscité, il dit qu'il ferait des œuvres plus grandes que les siennes. Mais c'est vrai qu'on voit dans le livre des Actes comment l'Église, avec la puissance du Saint-Esprit, formée comme un corps, a commencé à fonctionner dans le monde pour proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ, proclamer sa résurrection, proclamer le pardon des péchés. Donc, c'est ça que, mais c'est le Seigneur. On est son corps, chacun pour sa part. Ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la terre peut s'accomplir maintenant, même si la tête est dans le ciel. On voit que les membres de son corps sur la terre, par l'unité du Saint-Esprit, c'est ça qui est important, qu'on puisse être ensemble pour marcher d'un même cœur, marcher selon la tête pour accomplir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 12, il est dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, comme il dit ici, le perfectionnement des saints, c'est l'harmonisation, c'est l'agencement de tous ces corps, de tous ces membres-là ensemble, comme dans le corps. C'est pour ça que le Seigneur utilise cette image-là. Le corps, il est formé de différents membres, complètement différents, mais il est assemblé ensemble, il forme un tout, il forme le corps, puis ainsi on peut accomplir une tâche. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez-vous comment c'est important de vraiment pouvoir fonctionner ensemble, s'harmoniser ensemble. Puis, une église locale doit s'harmoniser ensemble selon la tête, dirigée par le Saint-Esprit et par la tête pour accomplir l'œuvre. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on est là pour faire cette récolte-là, pour rassembler l'Église du Seigneur Jésus-Christ, puis l'édifier, l'encourager. C'est important, ça. Mais on voit qu'il y a un bel enseignement sur les fonctions du corps dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, c'est des enseignements importants. Ceux qui ne tirent pas profit ou qui ne comprennent pas l'importance de l'Église locale, comment ils peuvent. On ne peut pas faire. Moi, je suis convaincu que c'est impossible de faire l'œuvre du Seigneur si on n'est pas ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Ce n'est pas toujours facile. On a des caractères différents, mais avec le Saint-Esprit qui nous dirige, quand on est obéissant à la tête, on peut marcher ensemble. Dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, les versets 4 à 7, il nous donne un bel enseignement ici. Il dit, Or, à chacun, au verset 7, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est bien important, les dons dans l'Église, là. C'est pas pour moi, mais c'est pour l'utilité commune. Oui, c'est vrai qu'on retire un bénéfice de notre don quand on le met à l'œuvre pour les autres, par le Seigneur, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'utilité du corps. Donc, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et en effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce que, comme on voit ici, premièrement, il y a diversité, au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, c'est l'esprit qui distribue les dons à chacun. Chacun de nous autres, on a un don. Quand on est sauvé, on a tous au moins un don qui a été donné par le Saint-Esprit. Puis, il faut le mettre à profit. Mais, comme avec le don qui nous a été donné, il nous dit, pour l'utilité, en effet, OK, puis. Un autre, attendez un petit peu, diversité de ministères. Où est-ce que je suis rendu? Diversité, ouais, diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, les dons sont donnés pour accomplir un ministère. Les dons sont distribués par l'Esprit. Le ministère est sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Un même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Puis le mot opération ou opérer ici, c'est le mot qui donne l'énergie, là. C'est le pouvoir qui lui est donné par ce mot-là. Donc c'est Dieu qui donne la puissance d'opérer ces dons-là, les diversités de dons. Qui sont utilisés dans les diversités de ministères, mais sous la puissance de Dieu pour faire la fonction de l'Église, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. On dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais le mot paix parle d'harmonie ici. Donc, Dieu est un Dieu d'harmonie. On sait qu'on voit ça dans sa création. Sa création est harmonieuse. On voit les planètes, c'est en harmonie. Puis, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, on doit voir aussi l'harmonie. Puis, ces différents dons-là doivent être gérés par le Seigneur Jésus-Christ dans les ministères que lui a choisis, puis il doit être en fonction par l'énergie de Dieu. Dans les versets 12 à 13, on voit une diversité, mais unifiée pour former un seul corps. Voyez-vous, dans le verset 12 de 1 Corinthiens 12, il dit, car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, on est une diversité, mais harmonisée par le Seigneur. Mais on voit dans le chapitre 12, verset 14 à 22, donc maintenant on voit l'interdépendance dans le corps. Vous savez, les membres sont dépendants les uns des autres. Tout le corps dépend. Vous savez, la main agit pour le corps, les yeux agissent pour le corps, l'estomac agit pour le corps. On a tous besoin, tous les membres ont besoin les uns des autres. Il faut bien comprendre ça, qu'on a besoin des autres membres. Comme il dit au verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Donc ça, c'est un peu le complexe d'infériorité, là. Il dit, ben moi, je suis rien que le pied, là. On ne voit pas le pied, on voit les mains agir toujours, mais il dit, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Non, il ne faut pas penser de cette façon-là. Il ne faut pas penser que notre don n'est pas utile. Notre don est utile. Tous nos dons sont utiles. Puis les églises locales ont les dons qui ont été donnés par le Seigneur. Si on manque, c'est parce qu'on ne développe pas nos dons. Donc, on doit développer nos dons pour les autres. Puis, il ne faut pas penser que notre don n'est pas important. Des fois, on se dit, ah, ben, moi, ce n'est pas grave si je fais rien. Non, chacun de nous autres, c'est bien important qu'on fasse nos dons. Mais il dit, si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Donc, on a besoin de voir, on a besoin de la vue, mais on a besoin aussi de l'ouïe. Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Même le nez, l'odorat est important. Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Puis, là, de l'autre sens, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ça, c'est le complexe de supériorité dans le corps. L'œil qui dit, moi, j'ai pas, il dit à la main, j'ai pas besoin de toi. Ben, c'est certain que l'œil a besoin de la main. Parce que quand la main donne la nourriture à la bouche, ben, l'œil, si la main fait pas son travail, l'œil, le corps va mourir, puis l'œil va mourir aussi. Donc, il faut pas, il y a le complexe de supériorité en pensant que moi, je suis tout, puis j'ai pas besoin des autres. On a tous besoin les uns des autres. Et, comme il dit ici, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Voyez-vous comment que la tête, pour se déplacer, a besoin des pieds, mais elle dirige les pieds. Mais c'est quelque chose quand on pense à ça, parce que la tête du corps, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est comme si le Seigneur Jésus dit, j'ai besoin de vous autres. Oui, il s'est placé dans une relation avec son Église qui la complète, qui le complète. Donc, on est. Il a besoin de nous autres. C'est lui-même qui s'est placé dans cette relation-là. Pourquoi? Pour accomplir son œuvre sur la terre. Seigneur Jésus, comment qu'il pourrait diriger s'il n'y a pas les membres à diriger? Donc, il s'est placé dans une relation avec son Église. Mais il dit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et vous, comment il faut prendre soin les uns des autres? C'est vraiment important qu'on prenne soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, on voit comment que c'est important ici, là. Puis, on voit que l'arrangement de ce corps-là vient de Dieu. Et vous, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Il a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Puis, il dit d'aspirer aux dons les meilleurs, mais la voie par excellence, ben, c'est que ces dons-là doivent être utilisé dans l'amour, puis c'est le chapitre 13 de 1 Corinthiens, c'est l'amour. Donc, on se doit de développer notre don. C'est important qu'on développe notre don, qu'on puisse vraiment être à l'écoute du Seigneur, puis on développe notre don en voyant le Seigneur nous met devant nous des choses à accomplir, puis ce qu'on voit à accomplir, eh bien, on l'accomplit, puis on s'aperçoit quand on a l'audace de la foi d'avancer, on s'aperçoit que le Seigneur nous aide. C'est le Seigneur qui nous donne l'énergie. Puis c'est important pour l'harmonie du corps. Puis c'est la preuve aussi, quand on fonctionne ensemble, harmonisé, c'est la preuve que l'esprit est à l'œuvre parmi nous. On voit la direction de l'esprit. On voit ça au repas du Seigneur, hein, quand on se réunit, puis on s'est préparé, l'Esprit de Dieu nous a préparé, puis on s'aperçoit quand on arrive ensemble que on s'est pas parlé ensemble, mais parce qu'on était préparé par le même esprit, on s'aperçoit que ça fait un thème. Puis qu'est-ce qu'on partage? C'est vraiment encourageant. Moi, je trouve ça tellement beau. Puis tout ça, c'est par la direction de l'esprit. Dans le Seigneur Jésus-Christ, la tête qui nous dirige par son esprit, puis aussi dans la puissance de Dieu. Donc, on voit que il y a des gens qui confondent le baptême du Saint-Esprit avec la plénitude du Saint-Esprit. C'est sûr que dans Acte 2, ils ont été remplis du Saint-Esprit aussi, mais on parle du baptême, qui est une chose, une expérience historique unique qui est arrivée le jour de la Pentecôte, qui est encore, on est encore au bénéfice de cette expérience-là. C'est pour ça que dans Romains 8, 9, il nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Puis 1 Corinthiens 12, 13 dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, ce n'est pas une expérience à rechercher. On a cette expérience-là au moment de notre conversion. On est rentré au bénéfice de cette. On était placé dans le corps. Mais on est exhorté, par exemple, à rechercher la plénitude de l'esprit, qui est différent. Éphésiens 5, 8, 19, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, comment qu'on devrait être rempli comme de l'esprit? Ben, c'est comme si on est rempli de vin, ben, il faut prendre ce vin-là puis le boire pour être rempli de vin. Mais de la même façon, pour être rempli de l'esprit, ben, il faut se nourrir des choses spirituelles. Donc, comme il dit dans Colossiens 3, 1, 2, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'était pour former un seul corps, mais la puissance de l'Esprit vient quand on est rempli du Saint-Esprit. Puis ça, c'est une, ça, c'est l'exhortation qu'on a de chercher la plénitude de l'Esprit, d'être rempli. C'est pas juste d'être rempli qu'on met le bouchon, mais c'est d'être continuellement en train d'être rempli comme un pot qu'on remplit, puis quand on continue de le remplir, il déborde. C'est ça que vraiment l'expérience de la plénitude de l'esprit, c'est qu'on est constamment en train d'être rempli de l'esprit du fait que ça déborde continuellement. Le Seigneur avait dit, hein, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, c'est ça que le Seigneur veut. Ça, c'est l'Église qui a été formée à la Pentecôte. C'est ça que représentaient les deux pains. C'était un concept caché dans l'Ancien Testament, qui était là, mais qui n'était pas révélé, qui a été révélé maintenant. Le Seigneur l'a annoncé, le baptême du Saint-Esprit qui est venu pour former ce corps-là avec les deux pains, juif et gentil, et pour former un seul homme nouveau, puis fonctionner par la direction de la tête à travers le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, pour accomplir l'œuvre du Seigneur sur la terre. C'est que à ce moment-ci, je vous donne l'opportunité de pouvoir donner des commentaires ou des questions.
Une petite remarque par rapport à 1 Corinthiens 12, le verset 4 et 5 et 6.
OK.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes choses. On voit ici la Trinité en fin de compte. Hein?
Exactement.
La Trinité de Dieu.
Ouais. Parce que c'est ça, on fonctionne, c'est la Trinité qui est à l'œuvre dans notre rédemption, puis dans notre fonctionnement. Puis Dieu est un Dieu trinitaire, toujours en harmonie, fonctionnant ensemble, ouais. Dans des rôles différents, mais faisant la même œuvre.
On voit que Dieu s'est vraiment approché de nous. Hein.
Ah oui.
Quand on regarde ben, ces versets qu'on vient de souligner, là, Dieu s'est vraiment approché de nous.
La proximité, oui, c'est ça.
Ouais.
Comme la tête est relié au corps.
Il est gracieux.
Oui, ah oui, vraiment.
Dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 5, on a mentionné une seule fois. J'aimerais faire une précision, tu me diras si tu es d'accord. Quand on dit une seule fois, il parle pas il parle pas du salut comme tel, il parle des vérités chrétiennes, des doctrines chrétiennes.
Ouais, c'est l'enseignement, oui, c'est ça, oui. Comme
Ouais.
la foi qui a été livrée au saints une fois pour toutes. Il y a juste une fois.
Bon.
Il y a des erreurs de doctrine, mais il y a une seule foi. Ça, c'est l'enseignement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas la
L'enseignement.
foi. C'est pas notre foi
Pour la foi
personnelle.
qui sauve.
Non.
Ouais.
Non.
Parce que des fois personnelles, il y en a des multitudes.
Ouais,
Tandis
c'est
que
ça.
les doctrines chrétiennes, il y en a une seule.
Ouais.
Justement, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, c'est mentionné. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça,
C'est
c'est
ça.
des gens qui abandonnent les vérités chrétiennes. Ils ont cru dans un temps à certaines vérités concernant l'Église, mais à un moment donné, ils abandonnent. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur salut. C'est
Non, c'est ça, oui.
probablement des gens qui n'ont jamais été sauvés.
Ouais. Ils se détournent de la foi, de l'enseignement que la parole de Dieu nous a donné. Ouais. Ouais, ça faut distinguer selon le contexte, quand on parle de l'enseignement dans son ensemble ou de ma foi que je place dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Ouais. Il y a une différence. Parce que si on ne fait pas la différence, on va arriver à des erreurs de doctrine.
Ouais, c'était certain.
OK, donc on est arrivé à l'heure. Si on va peut-être terminer par un mot de prière. Ceux qui doivent partir pourront le faire. Mais s'il y en a qui veulent encore jaser, ben on pourra le faire après. Seigneur notre Dieu, on te remercie de ces choses grandes et merveilleuses que tu nous as révélées, Seigneur. On ne veut pas prendre pour acquis ces choses-là, mais c'est vraiment comme Paul qui a reçu ces enseignements-là, était vraiment excité de nous les transmettre. Puis nous aussi, on doit les recevoir pour ensuite les transmettre, Seigneur. Mais on te remercie pour ce plan merveilleux que tu as pour ton Église, comme tu l'as racheté à un grand prix, Seigneur, comment tu la diriges, comment tu la conduis, comment tu la construis. On te remercie pour tout ça, Seigneur. Merci pour la puissance qui nous a été transmise de pouvoir porter témoignage de ton œuvre, de mort du Seigneur Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection, pour que des gens puissent être sauvés et ajoutés au corps de l'Église. On te remercie, Seigneur, que tu nous as aimés ainsi, que tu as fait une si grande œuvre pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.